En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'association Être humain présente depuis mars 2012 différents cycles de conférences sur la conscience, un thème interdisciplinaire de plus en plus débattu aujourd'hui. Après avoir traité de la conscience de l'homme, la conscience qu'a l'homme de sa projection réflexive sur le monde en train de se faire, la conscience chez l'animal, sur les états modifiés de conscience, sur la manifestation et la nature de la conscience, l'association Être humain propose un nouveau cycle de conférences consacré, cette fois, à la conscience, dans son acception celle de la morale. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission d'une table ronde qui s'intitule « Le point de vue des biologistes sur la conscience morale ». Retrouvons Pierre Buzer, François Gros et Jean-François Housset dans une table ronde présidée par Jean Béchler.
Il faut apparemment un président et donc je préside et donc je donne immédiatement la parole à je ne sais pas lequel de nos deux intervenants de la table ronde biologique. Eh bien, je donne la parole peut-être, non mais au doyen d'âge.
Moi, j'ai pas grand-chose à dire.
Le doyen d'âge doit être Pierre Buzer. Oui. Et donc, mon cher confrère, vous avez la parole.
Merci, monsieur le président. Bon, il a été question tout à l'heure de. Tu as parlé des. Qu'est-ce que nous étions des ouvriers là. Qu'est-ce que des plombiers zingueurs.
Eh bien, je pense
que ceux qui s'occupent de l'esprit, de la philosophie de l'esprit et des sciences de l'esprit sont plutôt des installateurs de chauffage central, c'est-à-dire avec une chaudière en bas. Ils installent à chaque étage des radiateurs et des choses comme ça. C'est jamais simple. Et on ne sait jamais qui fait quoi. C'est un peu cela dans l'étude du système nerveux. Je pense que, en principe, je dois parler des deux conscients, de la conscience morale. Mais je vais tout de même dire un mot en réponse à ce qu'a dit Jean Béchler. Jean Béchler a touché au fond du problème qui nous agite, qui nous anime tous, ceux qui s'intéressent à ce que nous appelons la philosophie de l'esprit, c'est la science et philosophie de l'esprit, c'est cette espèce de discipline dans laquelle on est tantôt dans ce que nous appelons le spirituel et tantôt dans le matériel. C'est-à-dire qu'on est toujours sur la ligne de crête, la ligne raide, où on tombe d'un côté, où on tombe de l'autre, et on ne sait jamais exactement comment se tenir. Et ceci est vraiment fondamental lorsqu'il s'agit de l'esprit. C'est clair que, ou plutôt ce n'est pas clair du tout, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de savoir comment s'en sortir. Je voulais simplement dire ceci, c'est que la conscience a été pendant, disons, sans faire d'histoire, d'historique, mais la conscience a d'abord été une instance spirituelle en quelque sorte, qui est ensuite devenue, dans les 20 dernières années, qui a pris vraiment une valeur d'instance matérielle, neuronale, qui a maintenant un substrat. Et ceci est donc un changement dont on ne se rend peut-être pas toujours compte, premièrement. Et dans ces conditions-là, alors le problème de l'interprétation fondamentale, auquel M. Béchler faisait allusion, c'est essentiellement... Quelle est la place du neurone dans toute cette affaire? Eh bien, tout dépend de quel genre d'employé du chauffage central il s'agit. Ceux qui s'intéressent uniquement aux neurones, ou ceux qui s'intéressent, bien entendu, à la globalité de l'instance conscientielle, que j'appelle ça comme ça, il est évident que le problème essentiel... qui n'est pas soluble. Il y a des problèmes qui sont résolus ou mal résolus, mais commencent à être résolus, c'est le fonctionnement global des neurones. Ça, bon, on peut discuter à l'infini, faire des dessins, remplir cet amphithéâtre de théories, c'est pas ça le problème. Le problème qui me paraît fondamental, enfin je ne suis pas seul, mais qui me paraît fondamental, c'est le problème de la transformation de l'objectif en subjectif. C'est le seuil ou le moment où il y a un phénomène objectif, c'est-à-dire un influx ou quelque chose, peu importe, Et d'autre part, vous avez tout à coup une expérience subjective. J'ai travaillé pendant 25 ans avec des neurochirurgiens. Je ne suis pas médecin moi-même, mais enfin, j'ai travaillé avec des neurochirurgiens. Et il m'est arrivé toutes les semaines de stimuler le cortex cérébral humain. Et j'avais cette extraordinaire expérience. Je mettais des électrodes dans le cortex visuel, par exemple, de l'œil, ou le cortex acoustique. Je stimulais tout à fait légèrement. Et le patient avait soit un phosphène, soit un acouphène, c'est-à-dire... Je stimulais quelques neurones et il y avait une impression subjective. À mon avis, c'est là le problème, un des problèmes fondamentaux que nous n'avons pas résolu. Et tout ce qui tourne autour de cela, on peut toujours discuter. On peut discuter sur la conscience, quelle est la part du subjectif et de l'objectif dans l'ensemble. Comment est-ce qu'on explique le passage de l'objectif au subjectif à l'intérieur du cerveau? Alors il y a ceux qui lâchent pied et ils disent... C'est ce qu'on appelle unexplained gap, le trou non expliqué. Il y en a d'autres qui construisent d'énormes, de magnifiques circuits. Nous en avons en France, il y en a beaucoup aux États-Unis, enfin quelques-uns aux États-Unis, construisent des circuits et qui considèrent que la conscience est le résultat, le subjectif, c'est-à-dire, est le résultat de l'émergence d'un système complexe. Autrement dit, plus le système sera compliqué, plus on aura de chances d'atteindre la subjectivité. Bon, il y a peut-être une autre possibilité, c'est d'essayer de trouver, ce que nous ne pouvons pas faire actuellement, quel est le mécanisme par lequel le stimulus objectif, que ce soit un influx, que ce soit une stimulation électrique, peu importe, mais quelque chose qui est mesurable physiquement, tout à coup donne quelque chose qui n'est pas mesurable physiquement, que seule notre conscience, notre intériorité, notre introspection, que seule notre introspection sait décrire, car l'objectif, c'est une seule notre introspection qui permet de le connaître, chacun d'entre nous. Et nous le communiquons ensuite par notre langage. Mais c'est comme cela que le subjectif est connu, par l'écriture, enfin tout ce qu'on voudra. Donc voilà le problème, autrement dit, quand je dis à Béchler, à M. Béchler, que quand on essaye d'expliquer le système conscientiel, on peut l'expliquer par des neurones. Bon, je suis tout à fait d'accord que les explications qu'on donne actuelles ne tiennent pas en général la route, mais elles sont formidablement intéressantes tout de même, n'est-ce pas? Seulement, on n'est pas véritablement complètement sûr de... Enfin, ça ne convainc pas véritablement. Et alors, je voudrais ajouter un mot de plus, c'est que le problème qui est difficile, c'est finalement le problème de la part du spirituel. Que devient le spirituel dans cette histoire de conscience? J'entends la conscience psychologique. Eh bien, il m'est arrivé de développer une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. C'est que actuellement, ce qu'on considère comme... il est habituel de dire qu'il y a chez nous deux parties. Il y a l'esprit spirituel et il y a le corps, l'esprit, le cerveau et le corps. Bon. Et la conscience là-dedans, est-ce qu'elle est l'un ou l'autre? Alors je propose que dans la conscience, dans ce qui est de notre conscience, il y a une partie qui est finalement objective. C'est celle dont je parlais tout à l'heure, là où l'objectif devient subjectif. Ça, je dis que c'est la douleur, c'est la sensation, c'est l'ensemble de toutes les sensations, l'ensemble des perceptions. Ceci est quelque chose qui, tôt ou tard, deviendra objectif. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une partie subjective qui est tout à fait optionnelle. Vous l'adoptez ou vous ne l'adoptez pas, ça c'est une question personnelle, c'est un choix que vous faites de garder le subjectif, ce qui n'est pas explicable. Il y a une partie, et je termine par là, il y a une partie qui est, à mon avis, qui n'est pas actuellement explicable et ne sera probablement pas explicable. Donc j'accepte le subjectif, mais je sépare de ce subjectif les perceptions, tout ce qui concerne le fonctionnement de notre esprit, vu, si vous voulez, sur le point de vue scientifique. Voilà ma réponse à M. Béchler. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, je ne pense pas. Ce serait très étonnant. Mais nous sommes bâtis comme cela. Alors maintenant, si vous permettez, tu permets, Si vous permettez, Monsieur le Président, puisque vous êtes président, Monsieur Bechler, si vous permettez, je vais dire un mot. Je n'étais pas là pour répondre, pour dire ce que je viens de dire, mais j'étais là pour parler de la conscience morale vis-à-vis de la biologie, c'est-à-dire pour moi vis-à-vis du mental. Je m'explique. Je viens de parler de la conscience psychologique. Eh bien, en parlant de la conscience psychologique, je n'ai pas un instant parlé de la conscience morale. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce double langage ? Oui, mais il y a des gens qui ont pensé depuis longtemps à séparer la conscience psychologique de la conscience morale. La preuve, c'est qu'en allemand et en anglais, il y a deux mots différents. Il y a Gewissen pour la conscience morale et Bewusstsein en allemand pour la conscience psychologique. Et en anglais, c'est consciousness ou conscious pour la conscience morale et consciousness pour la conscience psychologique. Autrement dit, les Anglais et les Allemands ne sont pas complètement idiots. Ils ont fait véritablement des séparations des deux domaines. Or, en français, nous confondons. C'est curieux, c'est comme ça. Alors, je ne vais pas discuter longtemps de la conscience morale versus le mental, versus la conscience psychologique, mais on peut faire quelques remarques tout de même. C'est que donc, compte tenu de cette confusion, on est toujours obligé de parler de conscience morale et de conscience psychologique. Alors, les deux consciences, bien entendu, interfèrent, c'est clair. Ce sont des artefacts presque de pédagogie qui consistent à les séparer. Il est bien évident, c'est du bon sens de considérer qu'ils ne sont pas indépendants. Et les exemples sont également presque du bon sens. Il est bien évident que il est difficile d'imaginer que des perceptions, même des perceptions, c'est-à-dire, car le conscience psychologique, tout le monde la divise plus ou moins en un aspect cognitif et un autre aspect émotif. Il est clair que même un aspect très cognitif comme une perception, par exemple, peut toujours éventuellement, en arrière-fond, être en quelque sorte plaqué sur le bien ou le mal. Ça, c'est dans notre structure, c'est très facile. Et c'est encore plus facile dans l'émotion. Dès l'instant où nous avons une vie émotionnelle, qui est en principe, si je puis dire, la conscience psychologique a mis le grappin, si je puis dire, sur l'émotion. La conscience psychologique, c'est un domaine de l'émotion. L'émotion, c'est un domaine de la conscience psychologique, puisque, par définition, nous savons expliquer l'émotion par des mécanismes que nous connaissons bien, tout en ne sachant pas expliquer comment nous en arrivons à souffrir, à pleurer ou à rire. Ça, c'est une autre affaire. Mais l'émotion fait partie de la conscience psychologique, mais il est évident qu'elle touche de près au bien et au mal. Alors, je vous laisse imaginer toutes les possibilités que l'on peut créer. On pourrait en parler pendant longtemps. Il y a un autre point que je ne vais pas être trop long, parce que sans ça, il n'y aura plus de temps. Un autre point que je voulais soulever, c'était dire qu'il y a le problème de l'inconscient. Car le conscient psychologique, on admet également l'inconscient. Il a été question, ce matin, il a question de Lacan, il a été question de Freud. Bon, c'est évident que l'inconscient, je dis bien l'inconscient qui n'est pas nécessairement psychanalytique, car la différence que je fais, c'est que notre inconscient comporte un point psychanalytique, mais comporte aussi toute une vie inconsciente qui n'a rien à voir, qui n'est pas de l'analyse, qui est en dehors de l'analyse. Donc il y a deux aspects de notre inconscient. Et je dis d'une façon générale que l'inconscient et la conscience morale sont probablement également très en relation. Vous pouvez imaginer, vous aussi, des expériences personnelles, et ce n'est pas la peine que je développe des exemples, ça compliquerait, ça allongerait la discussion, mais je pense que ça n'apporterait rien de neuf. Enfin, je voulais prendre un dernier mot sur la conscience, quid de la conscience du non-homme, autrement dit l'animal. Alors là, jusqu'à présent, j'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé de cas de conscience morale chez l'animal. Nous n'avons pas d'exemple précis. Encore que, On peut toujours se demander pourquoi Médor est content ou pas content, mais ça, je ne pense pas que ce soit un exemple de conscience morale. C'est un exemple de dressage, en quelque sorte, ou de au sens pavlovien du terme. C'est effectivement, c'est pas du tout. Donc, mais enfin, on pourrait imaginer. Voici à peu près les points de discussion et les points de départ de discussion que j'ai voulu lancer. C'est pas la peine que je donne des exemples. Vous êtes assez grand pour les imaginer vous-même. Merci.
Merci, merci monsieur Buzer. Vous n'imaginez pas à quel point je suis d'accord avec vous, à quel point vos positions, et en particulier émotion et conscience morale. J'ai développé ce point. Enfin, bon, je donne immédiatement la parole. Alors, j'ai choisi ordre d'ancienneté.
Ah bon?
Ou d'antiquité, si vous préférez. Et dans ce cas, je donne la parole à François Gros. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, non?
Il aura tout le temps pour terminer.
Comme on l'a vu, la morale a certainement beaucoup de choses à dire en ce qui concerne l'espace biologique. Et s'il fallait en donner d'autres illustrations, ce que l'on a évoqué tout à l'heure sous le nom d'éthique, qui est un peu un compromis entre une morale transcendante qui plonge ses racines dans l'histoire et qui peut avoir d'ailleurs, aux yeux de certains, une valeur en quelque sorte spirituelle, presque préexistante. Et l'activité humaine, en quelque sorte, eh bien, il y a à coup sûr aujourd'hui des risques qui sont en train de se développer et qui font qu'il est très important de revenir à des références morales, même très profondes, même mythologique au sens où le disait Christian Del Sol tout à l'heure. La raison en est que si on examine la dynamique en particulier des sciences et notamment de la biomédecine, ce qui est en train de se préparer, c'est une connaissance de plus en plus approfondie du patrimoine génétique de l'homme, au point que ce patrimoine génétique, demain, à coup sûr, va servir de référence pour développer, en particulier, une stratégie médicale. Ce que d'aucuns décrivent sous le nom de médecine personnalisée, qui est quelque chose dont vous avez immédiatement conscience qu'il soulève un nombre considérable de problèmes. Il les soulève pas uniquement sous l'angle de l'accès à cette médecine, évidemment, pour le moment, encore extrêmement onéreuse et encore à l'état expérimental, qui consiste, vous le savez, évidemment, à tirer parti de la connaissance des polymorphismes génétiques pour essayer de prévoir les maladies qui vont éventuellement se développer, les facteurs de risque, et ceci s'applique en particulier dans le domaine de la maladie cancéreuse. Mais ce qui va se passer, c'est que cette démarche va déboucher obligatoirement sur une sorte de catalogue, en quelque sorte, de vulnérabilité de l'espèce humaine. C'est-à-dire que, sans vouloir faire aucune espèce d'eugénisme d'aucune nature, force sera de constater que certains de nos semblables affichent une vulnérabilité beaucoup plus grande vis-à-vis de certaines maladies, parce qu'ils ont ces traits qui sont évidemment inscrits dans leur patrimoine génétique, d'autres non, et que là, plus que jamais, la solidarité, l'altruisme surtout, composante évidemment essentielle de la morale, va devenir impératif. Or, si la morale a beaucoup à dire en ce qui concerne la biologie, je vous concède que la biologie a beaucoup moins de choses à dire en ce qui concerne la morale. J'entends par là que, par exemple, on ne connaît pas, bien entendu, et là je schématise, des gènes particuliers qui prédisposent, disons, à la principe moraux, surtout dans leur caractère fondamental. En revanche, on est obligé, lorsque, enfin, je pense qu'on est conduit, en tout cas en tant que biologiste, mais aussi en tant que citoyen, à faire le passage des gènes. Pour passer des gènes à la morale, il faut en quelque sorte emprunter, comme l'a dit Pierre Buser, l'espace neurobiologique, c'est-à-dire le cerveau, et justement faire appel à l'ensemble du cortège des émotions qui se dessine très très tôt. Et à cet égard, il y a quelque chose qui est très important, qui s'appelle et qui a déjà été développé ici, et qui s'appelle l'empathie. L'empathie qui est une sorte de comportement physiologique, probablement assez, non pas primitif, mais je veux dire, qui démarre très très tôt dans l'existence, probablement entre l'âge de 4 et 6 ans, comme les neurophysiologistes nous l'ont appris, et qui permettent d'évaluer soi-même comme un autre, comme l'a dit d'ailleurs Paul Ricoeur. C'est-à-dire d'attribuer en quelque sorte à l'autre, ou de s'attribuer plus exactement, des sentiments qu'il éprouve. Donc il y a là un passage de soi-même vers l'autre et de l'autre vers soi. Et cette empathie, c'est quelque chose de très important qui repose probablement, je ne sais pas si Pierre Buser en est d'accord, en particulier sur une organisation neuronale qui fait appel justement par exemple à des neurones miroirs qui permet de prévoir justement le comportement de l'autre. Tout ceci a été remarquablement étudié très à fond par en particulier la psychologie contemporaine. Mais certains auteurs y ont vu, et là nous nous rejoignons je crois tous les trois, un départ en quelque sorte émotionnel d'une sorte de, disons, d'émotivité, d'affectivité qui est en quelque sorte précurseur de la morale. Pourquoi ? Parce que lorsque nous contemplons ou nous sommes au courant des difficultés de l'autre, en particulier nous contemplons ses souffrances, nous éprouvons ce qu'on appelle une détresse empathique, c'est-à-dire nous souffrons pour l'autre. Alors nous souffrons beaucoup, nous rejetons en quelque sorte cette souffrance, elle nous est insupportable. Et il y a là, face à cette détresse empathique, il y a plusieurs comportements possibles. L'un, qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense, consiste à dire « je ne veux pas voir cette souffrance, je veux m'abstraire de la prendre en compte ». C'est en fait un comportement quelque peu égocentrique et qui est relativement fréquent, c'est-à-dire permet justement quelquefois de retrouver son équilibre en essayant de se fermer à la souffrance de l'autre. Il y a évidemment un autre comportement qui consiste à rechercher la cause de la souffrance de l'autre et d'essayer d'y remédier. Et c'est là, à ce moment-là, où probablement on est beaucoup plus près du comportement moral, même si c'est évidemment cet exemple est très schématique. On peut même, d'une certaine façon, trouver dans cette empathie émotionnelle quelque peu primitive, qu'éprouvent même probablement un certain nombre d'animaux, qui ont une possibilité de prévoir aussi le comportement de leurs congénères, il y a là probablement certaines racines qui sont assez importantes et sur lesquelles la neurophysiologie actuelle est en train de faire un certain nombre de travaux pour comprendre cette... Donc, on en revient à ce que vous avez évoqué d'ailleurs vous-même tout à l'heure et ce qu'a évoqué Pierre Buser, c'est-à-dire que l'émotion primaire, qui est partagée d'ailleurs par certains animaux et par l'homme, pourrait être en quelque sorte à l'origine de cette forme initiale de la morale. Mais il est évident que ce que l'animal ne partage pas avec l'homme, ce sont des sentiments moraux alors beaucoup plus sublimés, tels que la confiance, la méfiance, le mépris, etc., qui sont des choses qu'un animal n'éprouve pas, mais que malheureusement ou heureusement, ça dépend des cas et de la couleur des choses, l'homme peut éprouver. Et ça, justement, ça, c'est quelque chose qui, pour certains physiologistes et pour des biologistes d'une manière générale, peut s'acquérir par une sorte de, non seulement de développement des aires corticales, qui est un phénomène qui apparaît après la naissance d'ailleurs déjà, et qui fait que le cerveau de l'enfant n'est pas complètement maturé, heureusement, mais qui peut en même temps être l'objet d'une sorte de, le mot est peut-être trop fort, mais j'allais dire une sorte de, d'apprentissage au contact de l'environnement, pour ne pas dire une sélection, qui est catalysée par l'environnement et qui fait que peu à peu, par une sélection de réseaux neuronaux, on peut justement avoir une morale beaucoup plus transcendante, beaucoup plus complexe. La question qui se pose aujourd'hui, et qui est un peu un élément de discussion, sinon parfois même d'un peu de conflit entre les neurobiologistes et les philosophes, ou des penseurs qui se réclament d'une autre forme de réflexion, c'est justement de voir dans quelle mesure tout ceci se résout à un ensemble de comportements de réseaux neuronaux de plus en plus complexes, de plus en plus emboîtés, ou s'il y a quelque chose de plus, comme l'a dit Pierre Buzet, qui pour l'instant échappe encore à la biologie. Donc, pour ma part, je partage assez volontiers son point de vue. Je crois qu'il doit y avoir quelque chose que nous ne connaissons pas encore, peut-être une force, peut-être une forme d'énergie qui nous échappe pour le moment, mais il est certain malgré tout que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une démarche qui essaye pour le moment de rapprocher à la fois l'attitude de ceux qui voient dans la morale une faculté en quelque sorte transcendante, qui peut évidemment reposer sur l'histoire, la philosophie ou la spiritualité, et ceux qui, au contraire, essayent de comprendre le fonctionnement du cerveau. Je crois qu'il n'y a pas une coupure absolue, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Voilà.
Mais, nous sommes d'accord. Alors, Madame la Présidente, l'heure tourne. Je propose qu'on supprime le déjeuner, non ? C'est possible ? Non, bon, je donne la parole à Monsieur Housset.
Après les exposés précédents remarquables et la profondeur des pensées qui viennent d'être exprimées, d'autant que j'avais choisi comme intitulé de cet essai un intitulé très trop ambitieux sur les origines de la conscience morale en biologie. Et dans le cadre de cette table ronde, au travers de ce thème complexe conscience morale et biologie, je souhaitais m'efforcer, s'il m'était possible, de proposer quelques pistes de réflexion sur la définition du concept de conscience morale, sur l'origine ou le fondement de cette conscience dans l'être biologique et sur son impact dans l'évolution naturelle en biologie. Le concept lui-même intègre deux aspects principaux. L'un qui privilégie la connaissance. Descartes définit la morale et donc la conscience qu'on en a, comme le principal fruit du savoir qui conduit à un plus haut degré de sagesse. Et il décrit ce savoir comme issu de la philosophie, tel un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches qui sortent de l'arbre, toutes les autres sciences. Le second aspect privilégie le choix de l'action, le volontarisme, les applications. Pour Spinoza, la morale cherche avant tout à améliorer le réel, par une attitude raisonnable et le bonheur pour tous. Il s'agit alors d'une réflexion éthique sur les choix et applications au niveau de la société. Nous porterons principalement notre attention sur le premier aspect, l'axe de la connaissance fondamentale, en cherchant à définir l'origine de la conscience morale en biologie et en prenant appui sur l'ensemble des sciences, y compris le savoir métaphysique. En effet, la détermination de l'origine de la conscience morale en biologie est liée au cadre théorique dans lequel on situe l'expression de la vie. L'hypothèse dite matérialiste et l'hypothèse dite spiritualiste centrée sur la notion de conscience. Aucune de ces deux hypothèses n'a en l'état, sur le strict plan scientifique, reçu démonstration. On notera incidemment la nécessité qu'il y aurait à qualifier de prioritaire les recherches ouvertes à l'intersection de ces deux représentations. C'est la problématique la plus fondamentale qui soit, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de comprendre et de rendre évidente notre nature et notre réalité humaine. La conscience morale et le matérialisme. Dans l'hypothèse matérialiste, on considère l'expression de la conscience comme un épiphénomène résultant d'une transition fonctionnelle émergente, trouvant sa source unique dans l'évolution de la complexité des structures organisationnelles cérébrales et des connexions neuronales. La conscience morale en biologie résulterait alors uniquement de phénomènes cognitifs neuronaux, biochimiques et cellulaires, conduisant au développement de capacités de raisonnement et d'adaptation au milieu. Déjà Darwin, dans son ouvrage « La descendance de l'homme », mentionnait que tout animal est pourvu d'instincts sociaux. Dans le cadre matérialiste, l'humanité serait donc uniquement, et il faut insister sur cet adverbe, uniquement une espèce animale issue d'ascendants biologiques qui, durant des millions d'années, ont testé les stratégies de survie propres à l'évolution favorable de leur espèce. Dans le cerveau, certains noyaux de la base, structures phylogénétiquement anciennes, détermine l'expression de ces comportements instinctifs de survie. Les projections neuronales de ces structures anciennes vers les couches du néocortex, à l'origine de la conscience réflexible, auraient alors généré la conscience morale, forme élaborée de la cognition, dévolue à favoriser et protéger l'évolution favorable de l'espèce humaine. Dans ce cadre strictement matérialiste, qui ne peut être fondé au niveau individuel que sur un moi transitoire et uniquement matériel, il peut sembler a priori bien difficile de faire appel à des idéaux très élevés tels la compassion, la fraternité, l'union collective à une plus grande réalité, si ce n'est dans un habillage illusoire à la recherche d'un consensus individuel et collectif gratifiant, aller au-delà et sans esquive possible sortir du cadre strictement matérialiste. La conscience morale et le spiritualisme. Les choses deviennent beaucoup plus subtiles et beaucoup plus ouverte, si sous le mot de spiritualisme, on fait l'hypothèse d'élargir le modèle scientifique, matérialiste, en postulant l'existence d'une conscience distincte des éléments matériels proprement dits. On rappellera le niveau limité de nos connaissances fondamentales concernant les fonctions du cerveau, mémoire, idéation, perception, conscience, dès lors qu'on veut aller au-delà des mécanismes biochimiques et cellulaires. Le caractère phénoménologique aussi des observations scientifiques. L'importance de l'échelle d'observation et des liens entre l'observateur et l'observé. La fenêtre étroite d'observation de nos méthodologies actuelles, malgré leurs avancées évidentes. On mentionnera aussi sur un plan général la position minoritaire de la portion de notre univers sur laquelle s'appuient pratiquement toutes nos connaissances scientifiques. Le dernier chiffre, 4,9% de matière ordinaire seulement dans l'ensemble matière-énergie de notre univers. On mentionnera également le nombre considérable et la cohérence d'observations-témoignages de la séparation temporaire d'une forme de conscience et du corps physique, processus qui pourrait d'ailleurs survenir tout à fait naturellement durant le sommeil sans être le plus souvent remémoré. Séparation de la conscience de l'être qui va bien au-delà des anomalies de la perception partielle de l'image du corps qu'on peut induire après stimulation de certaines zones du cortex cérébral. Assurément, de vastes champs de recherche sont potentiellement ouverts à la démarche scientifique fondamentale. Afin de mieux définir dans ce cadre biologique plus élargi et avec les hypothèses les plus minimales l'origine de la conscience morale en biologie, il semble utile à l'analyse de différencier deux niveaux distincts au sein même de la conscience. Une conscience de type 1 qui sera dite opérative et une conscience de type 2 qui sera dite réflexive. Vouloir définir la conscience de type 1, c'est postuler l'existence intriquée à notre réalité matérielle, les 4,9% cités, mais aussi les autres niveaux matière-énergie de notre univers, d'un champ de conscience primordial, dont on ne connaît pas la source, opérationnel de par sa nature, et dont la dynamique de son essence est d'être. À titre d'image, on pourrait comparer très approximativement ce champ primordial a une sorte de programme de programme, bien au-delà de ce qui est imaginable dans les technologies actuelles, et qui, dans ses actions, conduirait à créer un contexte d'intelligence opérationnelle par analogie à ce que nous nommons par ailleurs intelligence artificielle. Dans son application, ce champ de conscience induirait, par son interaction avec la matière, une augmentation de la complexité de son organisation et donc de l'information, c'est-à-dire une diminution de l'entropie. Nous sommes dans la grande périphérie du domaine spirituel tel qu'il est habituellement compris. En effet, il s'agirait d'une force impersonnelle, implacable dans son action au sens humain, que rien ne peut arrêter puisqu'elle est l'expression d'être, qui n'a aucune finalité biologique spécifique, hors son expression irrépressible, d'être, et qui dans cet état est sans égard pour les expressions biologiques individuelles, utilisant avec un total et apparent automatisme les mécanismes d'élimination des structures les moins adaptées et de sélection des structures biologiques les plus aptes à permettre à ce champ de conscience primordial d'être davantage exprimé. Nous parlons biologie, et il est bon de rappeler quelques données classiques pour illustrer ce qui pourrait avoir été le domaine d'action de cette conscience dans l'évolution sur Terre des espèces biologiques. Rappelons le développement des procaryotes, dont les bactéries, il y a 3 milliards d'années, des eucaryotes, des cellules primitives avec noyaux, il y a 2 milliards d'années, puis un phénomène extrêmement important dont on parle peu, c'est la sélection au sein de ces cellules eucaryotes primitives qui deviennent endosymbiotiques avec des bactéries, c'est-à-dire après infection de ces cellules par des bactéries, qui lui apportent un générateur d'énergie. Ce sont dans nos cellules les mitochondries et dans les cellules végétales les chloroplastes. Puis ensuite, il y a les premiers métazoaires, assemblés de cellules et leur différenciation fonctionnelle, il y a 635 millions d'années, puis les invertébrés, puis les vertébrés, autour de 500 millions d'années, dont poissons, reptiles, puis mammifères. Et à l'autre extrémité, en arrivant dans le groupe des primates, les hominidés environ 4 à 7 millions d'années. Et quant à l'Homo sapiens, survivant le plus évolué de ce tout biologique, on lui accorderait entre 300 000, 200 000 et 400 000 ans. Le tout construit sans plan défini, par application inflexible de la sélection naturelle, et sans oublier les aléas des 7 périodes d'extinction des espèces. On situe mieux dans ce contexte le rude parcours aléatoire, mais non finalisé, de l'expression de la vie, un processus de façonnage des espèces qui, dans l'hypothèse présentée, résulte principalement de l'interaction matérielle de la conscience de type 1. Naturellement, cette forme particulière de conscience est toujours en action. Elle conditionne notre santé et tout ce que nous identifions sous les vocables des états physiologiques normaux et pathologiques. Elle continue d'appliquer ses méthodes et il est probable, en ce qui concerne notre espèce, que le cerveau, en tant qu'interface matérielle, en soit une très importante cible. La question dès lors est posée. La conscience morale trouve-t-elle son origine dans la conscience de type 1 ? La réponse est probablement négative par le fait qu'à ce niveau opératif de son expression d'être, la notion de conscience morale n'a en elle-même probablement aucun sens, tout au moins, et c'est très important, au niveau de notre compréhension humaine. La conscience de type 2 postulée dans cette représentation est d'un niveau intégré très supérieur. Elle est en effet considérée comme l'expression de la conscience de l'être conscient individualisé. Le type 1 est l'opérateur, le type 2 est le pilote. La conscience de type 2 est réflexive et son pouvoir d'action est lié à sa force d'intention. Cet être conscient individualisé, dont nous sommes tous un exemplaire, devient transposé à la psyché humaine ce que nous appelons le soi. Il intègre le biologique, donc la matière ordinaire, et s'y exprime en fonction des capacités d'expression permises par les structures matérielles fonctionnelles à disposition après le façonnage effectué par la conscience de type 1 et les effets délétères et favorables de l'environnement. Dans ce modèle, cette conscience de type 2 est donc le soi, demeurerait indépendant de la structure biologique matérielle qu'elle anime et pourrait donc, dans certaines circonstances, maîtriser ou non, quitter son enveloppe matérielle temporairement, hors départ ultime. Comme il a été mentionné précédemment, des descriptions, témoignages nombreux et fiables sont en faveur de ce modèle, hors du corps matériel. Et dans des environnements de conscience très différents, cette conscience de type 2 du soi se caractérise, selon ces témoignages, par une capacité cognitive lucide, aiguë, ouverte sur l'universel, le tout. Une objectivité d'observation et d'analyse qui, en compréhension, dépasse de beaucoup dans sa globalité le niveau objectif attribué à notre conscience habituelle. Le maintien de l'identité du soi, une capacité de choix et de décision, la volonté identifiée dans la mise en œuvre des décisions, on retrouve là la force d'intention attribuée à la conscience de type 2, enfin une force d'énergie immense dans l'application des décisions. Assurément, selon ce modèle, la conscience morale trouverait son origine au niveau de la conscience de type 2, de l'être conscient individualisé, c'est-à-dire le soi, qui est donc pour l'être humain le véritable être moral. Au terme de cette analyse, on peut, en guise de conclusion, souligner les 5 points suivants. L'expression de l'être moral dépend du niveau d'émergence de la conscience morale au niveau des structures biologiques et fonctionnelles du cerveau, qui intervient comme opérateur et filtre. Les troubles du comportement, induits ou non au niveau des noyaux de la base du cerveau, peuvent y trouver explication en termes de mécanismes. Il en est de même pour les nombreuses altérations mentales qui sont des dysfonctions de l'interface matérielle fonctionnelle du cerveau. L'observation comportementale de l'espèce humaine dans l'histoire et en direct à notre époque suggère fortement que la conscience morale est une expression de conscience en émergence avec tous les aléas potentiels et qu'elle est encore très mal intégrée dans la conscience de l'espèce humaine. La qualité de l'expression de la conscience morale est étroitement conditionnée par les références sur lesquelles elle s'appuie. On a eu des exemples au cours des exposés précédents. Elle peut ainsi, au niveau individuel et sociétal, conduire à des progrès ou à des déviations négatives. La mise en œuvre de la conscience morale nécessite la capacité préalable du choix conscient et induit donc un état de responsabilité. Enfin, dans le domaine biologique, la conscience morale trouve sa source véritable très probablement dans l'expression de la conscience de type 2. Elle est à l'origine d'un véritable saut qualitatif, avec tous les risques inhérents, dans le domaine de l'évolution naturelle et de l'application du processus de sélection, conduit d'une main de fer depuis des milliards d'années par la conscience de type 1. Pour la première fois, à notre connaissance, une espèce animale, l'espèce humaine, acquiert grâce à son haut niveau d'expression consciente, cognitive, dont connaissance rationnelle et son haut et technologique, et à ses capacités de choix volontaire de ses actions, le pouvoir de modifier en partie le processus de l'évolution sélection naturelle. En effet, tous les efforts et avancées en médecine et recherche biomédicale et génétique tendent à s'opposer au processus de la sélection naturelle au niveau individuel et sociétal. Et des questions difficiles se posent à la société en biologie, éthique médicale, quant au choix à faire, compte tenu des avancées des recherches et de l'efficacité biologique des technologies en sciences de la vie. Dans ce créneau du temps biologique qui est le nôtre, l'humanité devient responsable de son avenir. Merci.
Mais... Merci, mon cher collègue. Vous nous avez exposé enfin, les linéaments, mais les linéaments cohérents de toute une théorie qui, somme toute, met tout le monde d'accord, puisqu'elle intègre tout, mais qui, je pense, pourrait être discutée. Alors, je ne suis pas sûr que nous ayons le temps de discuter. Je serais tenté de demander à nos deux... C'est une table ronde, alors qu'ils sont censés discuter entre eux. Vous avez droit à une phrase. Allez, deux. Monsieur Buzer d'abord et Monsieur François Gros ensuite.
Je ne suis pas contre. Regardez.
Micro.
C'est intéressant, votre présentation. Alors, je retiens. J'ai des critiques. Premièrement, la conscience primaire, enfin la conscience... J'ai parlé de Médor tout à l'heure, de chien. Hein. Je pense que personnellement, je pense que la conscience primaire ne démarre pas à la plésie, si vous voulez, ou au virus, mais démarre quelque part du côté des carnivores ou par là, voyez-vous. C'est tout à fait subjectif, hein, ce que je dis. Je n'ai pas de preuves. Mais enfin, c'est une sorte de... Subjectivement, c'est comme ça qu'on voit. C'est la deuxième partie de la phrase. Deuxièmement, la conscience réflective, c'est évidemment la conscience humaine. Mais attention, il y a aussi des grands singes qui commencent à avoir des annonces de conscience. De conscience secondaire, enfin conscience réflexive. Troisième point, et je m'arrête là, votre point intéressant et nouveau pour moi, c'est que la conscience morale est en quelque sorte un bourgeonnement de la conscience réflexive. Voilà, j'ai fini.
Monsieur François Gros veut dire quelque chose ?
Ce que je retiens un petit peu de cet exposé que nous a fait Jean-François, c'est que il y a un maître mot dans cette affaire pour les biologistes qui, évidemment, fait quelquefois grincer les dents des non-biologistes, c'est le mot évolution. C'est-à-dire la question est tout de même de savoir si cette évolution, d'ailleurs, est une chose qui se produit selon les mécanismes que les biologistes invoquent généralement, c'est-à-dire changement du patrimoine génétique par mutation et sélection par les facteurs environnants, ou bien si, s'agissant justement du cerveau, qui est tout de même un organe très particulier, cette évolution ne se fait pas précisément directement par l'influence de l'environnement sur le matériel biologique que constitue l'ensemble des neurones, sans passer évidemment par des changements au niveau du patrimoine génétique. Je crois que ceci, c'est une question très importante pour l'avenir, justement, de la neurophysiologie.
Merci. Bon, je crois que, nous avons bien travaillé ce matin, au sens où nous avons, reçu une multitude d'informations et c'est l'objet des colloques, ces informations à chacun d'entre nous, de les gérer et d'en tirer quelque chose qui aille dans le sens du vrai, du moins on peut l'espérer. Merci.
Vous venez d'entendre la retransmission de la table ronde organisée dans le cadre du cycle de conférences de l'association Être humain, consacrée à la conscience morale, en mai 2013. C'était le point de vue des biologistes Pierre Buzère, François Gros et Jean-François Housset sur la conscience morale. Une retransmission de Canal Académie.